Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal Blaise de Shindani Kambala.
La situation à l'est de la RDC préoccupe au plus point les Nations Unies. La sous-secrétaire générale des Nations Unies pour l'Afrique, Martha Pobi, a demandé hier au Conseil de sécurité à New York d'accorder tout son poids aux efforts régionaux en cours pour désamorcer la situation et mettre fin une fois pour toutes à l'insurrection du M23. Dans la province du Maniema, le Conseil d'État a annulé hier soir, mardi 31 mai, les élections du gouverneur et vice-gouverneur de cette province. Cette annulation intervient après la confirmation du ticket gagnant par la cour d'appel de Kindu. La paix est possible, mais il y a beaucoup de tireurs de ficelles qui s'impliquent dans les conflits. Et cela complique davantage les efforts de pacification sur terrain. C'est ce que pense Lizzie William, la directrice de programme de l'ONG britannique Alerte Internationale, qui est l'invitée de ce journal. Voilà tout pour les titres. Bonjour mesdames, bonjour messieurs et bienvenue à cette édition du journal. Malgré les efforts déployés par le gouvernement congolais pour lutter contre l'insécurité dans l'est de la RDC, la violence des groupes armés a continué de faire payer un lourd tribut à la population civile dans plusieurs territoires de province. C'est ce qu'a dit la sous-secrétaire générale des Nations Unies pour l'Afrique, Martha Pobi, devant les membres du Conseil hier, mardi, à New York. Le Conseil de sécurité de l'ONU a examiné hier la situation qui prévaut dans l'est de la RDC en général et en particulier la récente résurgence du M23 dont les actions hostiles contre les forces armées congolaises et les casques bleus de la MONUSCO au Nord Kivu constituent une menace grave pour la paix, la sécurité et la stabilité dans la région, a précisé Martha Pobi. Elle a demandé que le Conseil de sécurité accorde tout son poids aux efforts régionaux en cours pour désamorcer la situation et mettre fin, une fois pour toutes, à l'insurrection du M23. Suivez.
Malgré les efforts déployés par le gouvernement de la République démocratique du Congo pour lutter contre l'insécurité dans l'est du pays, la violence des groupes armés a continué de faire payer un lourd tribut à la population civile dans plusieurs territoires de province. La récente résurgence du mouvement du 23 mars, connu comme M23 en particulier, et ses actions hostiles contre les forces armées congolaises et les casques bleus de la MONUSCO au nord Kivu aggravent une situation déjà sérieuse. Elles continuent une menace grave pour la paix, la sécurité et la stabilité dans la région.
Prenant la parole pour sa part, l'envoyé spécial des Nations Unies dans la région des Grands Lacs, Yang Xia, a salué l'engagement de toute la région, voire du continent africain, exprimé par le président Macky Sall du Sénégal, à soutenir la RDC et ses voisins dans leurs efforts pour se concerter et tenter de trouver ensemble des solutions à ce problème de longue date. Yang Xiang.
Au-delà de cette dimension sécuritaire, nos engagements politiques collectifs doivent plus que jamais se poursuivre. J'encourage les dirigeants de la région à poursuivre leur dialogue de haut niveau sur les moyens pour faire face à la menace que représentent les groupes armés et pour éviter une escalade des tensions entre la RDC et ses voisins. Le dialogue entre les dirigeants concernés de la région reste en effet une condition sine qua non pour mettre fin de manière durable à ces problèmes qui sont anciens et profondément enracinés. Il est donc capital de continuer à mobiliser les mécanismes bilatéraux et régionaux disponibles, y compris le récent processus du conclave de Nairobi, la conférence internationale pour la région du Grand Lac et bien entendu l'accord cadre d'Addis Abeba.
L'envoyé spécial des Nations Unies dans le Grand Lac a par ailleurs annoncé une nouvelle tournée régionale qui les conduira dans tous les pays concernés de la région avant le prochain conclave de Nairobi. La RDC a accepté mardi 31 mai de libérer deux soldats rwandais arrêtés il y a quelques jours au village Biumba en territoire de Rutshuru au Nord Kivu. Le président angolais João Lourenço a fait cette annonce à la suite de son entretien avec le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi. À la demande de son homologue angolais, Félix Tshisekedi a accepté de libérer deux soldats rwandais récemment capturés sur les territoires de la RDC, ont indiqué les services de la présidence angolaise dans une dépêche de l'agence France Presse. Ils estiment que cette mesure entend réduire la tension diplomatique entre Kigali et Kinshasa. Le président angolais affirme également avoir échangé avec son homologue rwandais Paul Kagame. À la suite de ces entretiens, les dirigeants rwandais et congolais sont parvenus à un accord pour se rencontrer en face à face à Luanda, en Angola, à une date qui sera annoncée. Entre-temps, au sujet des attaques du M23 soutenues par le Rwanda, les forces sociales de la RDC appellent à la mobilisation générale du front d'éveil patriotique de tous les Congolais et Congolaises afin de bouter cette tentative d'invasion hors de nos frontières. Dans un communiqué publié lundi à Kinshasa, ces plateformes lancent un appel vibrant aux églises, aux partis politiques, toutes tendances confondues, aux mouvements citoyens et à toutes les couches à l'unisson pour sauver la nation congolaise face à cette agression. Jonas Tombela, président de la nouvelle société civile congolaise, est joint par Denise Loukesso.
Chaque année, ils viennent sous prétexte qu'ils sont en train de pourchasser le FDLR. Ils vont arrêter à Kinshasa, même à travers tout le pays. Jamais ils ont retrouvé ces gens qui les recherchent. Ils arrivent à semer l'insécurité dans la partie est de notre pays. Nos compatriotes souffrent et nous pensons qu'ils vont défendre l'intérêt derrière de la République démocratique du Congo. Et ça ne doit pas être seulement l'affaire de seuls compatriotes qui vivent à l'est de la République, c'est l'affaire de nous tous. Voilà pourquoi nous appelons à la mobilisation générale pour soutenir nos forces armées qui sont en train de se battre actuellement sur le terrain pour défendre nos frontières et défendre la sécurité de nos compatriotes. Et nous nous mobilisons également pour demander la retraite des nations diplomatiques avec les pays voisins. Nous ne pouvons pas indéfiniment continuer à accepter cette situation. Nous demandons la fermeture des frontières. Voilà autant d'éléments qui nous poussent à mobiliser la population pour défendre nos frontières et la population qui est dans une situation d'insécurité extrêmement très dangereuse.
Jonas Tshombela annonce par ailleurs l'organisation de plusieurs activités de mobilisation sur toute l'étendue de la République à partir de la semaine prochaine. Dans le même ordre d'idée, au Sud Kivu, les forces vives de la société civile et autres structures de la population réitèrent leur soutien total aux forces armées de la République démocratique du Congo. Elles l'ont signifié au cours d'une marche pacifique organisée ce mercredi dans les rues de Bukavu. Objectif, dire non à la guerre d'agression de la RDC. Emmanuel Elameji Wakabedi a suivi cette marche pour nous. Suivez son reportage.
C'est une foule compacte qui a manifesté depuis la place Muziroa à Nyawera jusqu'au gouvernorat de province en commune d'Ibanda. Organisation de la société civile, étudiants, motards, enseignants ainsi que les femmes étaient de la partie. L'essentiel du message consiste à dire non à l'agression du pays et manifester le soutien total au FRDC. Devant le cabinet du gouverneur de province, Jean Chrysostome Kidiana, un des initiateurs de la marche, a lu le mémorandum adressé au président de la République. La population du Sud Kivu demande au chef de l'État d'octroyer des moyens conséquents à l'armée et d'autres services de renseignement pour assurer l'intégrité et la souveraineté nationale, mais aussi d'honorer tous les militaires blessés et ceux qui tombent sur le champ de bataille. Autre demande au chef de l'État, c'est celle de procéder à des réformes profondes au sein de l'armée pour s'assurer des militaires réellement engagés pour la patrie. Aucun incident majeur n'est enregistré alors que toutes les autres activités économiques se déroulaient normalement à Bukavu. Emmanuel Elamijwa Kabedi, Bukavu Radio Kapi.
Et puis, début ce mercredi en Ouganda, d'une rencontre entre les armées congolaises et ougandaises. Cette rencontre de deux jours qui se tient dans la ville de Fort Portal, situé dans le district ougandais de Kabarole, porte sur l'évaluation des opérations conjointes FARDC-UPDF dénommée Shuja, lancée depuis 6 mois contre les ADF au Nord Kivu et à Ituri. Martial Papi Mukeba pour les détails.
La délégation de l'armée congolaise est conduite par le général-major Camille Bombele, coordonnateur des opérations conjointes des armées congolaises et ougandaises. Selon des sources militaires, il est prévu au cours de cette réunion de 2 jours l'évaluation des opérations militaires d'ensemble contre la rébellion ougandaise de l'ADF. Les discussions tourneront également sur la troisième phase de ces opérations conjointes au Nord Kivu et en Ituri, conditionnées par le maintien de la présence des troupes ougandaises en RDC, précise notre source. Le 17 mai dernier, le commandant des forces terrestres de l'armée ougandaise avait annoncé le début du retrait de ses troupes déployées en RDC dans un délai de 2 semaines. Cette rencontre des armées congolaises et ougandaises se tient donc à l'expiration de cette échéance, signalant que depuis 6 mois, au moins 1700 militaires de l'armée ougandaise sont déployés au Nord Kivu et en Ituri. Des sources militaires et sécuritaires disent qu'il s'agit des forces spéciales et de l'infanterie de l'UPDF avec leur artillerie et blindés. Beni, Martial Papi Mukeba, Radio Okapi.
Nous le disions en titre, dans la province du Maniema, le Conseil d'État a annulé hier soir, mardi 31 mai, les élections du gouverneur et vice-gouverneur de cette province. Cette annulation intervient après que la Cour d'appel du Maniema ait confirmé l'élection du ticket gagnant, Kishabongo Rajabu Kindanda Hubert et Chuma Yafali Bernard. Florence Kizalungu, reportage.
C'était le 20 mai dernier que la Cour d'appel du Maniema avait confirmé l'élection de Kishabongo Rajabu Kindanda comme gouverneur de province. Les 3 candidats malhérés ont saisi le Conseil d'État demandant l'annulation de ces élections faute d'irrégularité. Après le verdict du Conseil d'État, la partie appellante estime que le Conseil a dit le droit. Maître Didier Kakou le Pilipili, l'un des avocats de cette partie, explique.
Nous avons obtenu gain de cause. Ce que nous avions poursuivi devant la Cour d'appel du Maniema, que nous n'avons pas obtenu, mais nous l'avons obtenu au Conseil d'État. En annulant les élections des gouverneurs et vice-gouverneurs qui ont eu lieu le 6 mai 2022 pour motif qu'il y a eu fraude à ce qu'il y a eu des personnes sans qualité pour voter les gouverneurs et c'est à violation de l'article 198 de la Constitution.
C'est une décision qui moralise même la vie publique. Les gens ne quitteront pas leur parti pour aller s'hasarder ailleurs et revenir intégrer leur parti et quand on quitte les partis politiques, on perd son mandat.
Contactés, les avocats du gouverneur Eli se sont réservés de tout commentaire, signalant que Hubert Kindanda Kishabongo est le deuxième gouverneur au Maniema à être élu sans travailler. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Okapi.
Plus d'un million de Congolais sont attendus à la messe solennelle du pape François le 3 juillet prochain à Kinshasa. En perspective de cette visite papale en RDC, la SENCO apprécie l'évolution des travaux sur les sites de l'aérodrome de Ndolo, lieu retenu pour la messe. Hier mardi, le secrétaire général de la SENCO s'est réjoui de l'évolution des travaux financés par le gouvernement. Mais il déplore la lenteur de la Régie des Eaux et la SNEL qui ne s'acquittent pas encore de leurs tâches. On écoute les chapelains Donatien Cholet au micro de Jeff Ngoïmo.
Je suis content de voir que les travaux de la tribune imposante de 950 mètres carrés évoluent bien. Ils ont fait un timing réaliste, ils travaillent jour et nuit. Mais je suis un peu préoccupé par d'autres aspects non moins importants. Il y a la Régie des Eaux, par exemple, qui doit mettre en place des fontaines pour servir des milliers de gens qui vont être là. Il y a la SNEL qui a encore à faire. Et surtout, on devra avoir au moins 32 accès pour les entrées, ce qui faciliterait les entrées pour qu'il n'y ait pas de bousculade. Avec 24 quartiers d'un hectare séparés par des allées, donc toutes les dispositions sont prises pour qu'on gère même plus d'un million sans difficulté. Le gouvernement prend la mesure de la chose. Les travaux qui se font ici, c'est le gouvernement qui a financé.
Nous poursuivons notre journal dans la province du Sankuru pour parler de la poursuite de la campagne de distribution gratuite de la moustiquaire imprégnée d'insecticides à longue durée d'action Milda. D'après le médecin chef de division provinciale de la santé, cette campagne qui prend fin le 6 juin prochain concerne plus de 5000 ménages répartis dans 16 zones de santé. Docteur Aimé Alingo demande aux bénéficiaires de ces moustiquaires de ne pas les utiliser aux activités de pêche ou de lutte anti-érosive. Docteur Aimé Alingo, chef de division provinciale de la santé au Sankuru, a été joint au téléphone par Esther Ndalafina.
Nous avons lancé la campagne de distribution gratuite des moustiquaires imprégnés de insecticides dans la province du Sankuru depuis le 30 mai pour une durée de 8 jours. Ça prendra fin le 6 juin. Nous avons réceptionné au niveau de la province 1 600 297 moustiquaires pour distribuer dans 503 858 ménages. Sera en fonction du taille de ménage. Nous avons notifié plus de cas en 2021 avec une létalité client due au paludisme. Au niveau de la province, nous avons eu la chance d'avoir l'implication totale de toutes les autorités politico-administratives. Le gouverneur a lancé l'acte et a pris l'engagement, les chefs de village, les chefs de secteur, même les leaders d'opinion pour que ces moustiquaires ne soient pas utilisés dans des pêches, dans des activités érosives. Que ces moustiquaires soient utilisés réellement dans le ménage pour se protéger contre les moustiques.
Actualité internationale.
En Afrique de l'Ouest, la période de soudure pourrait commencer plus tôt que d'habitude, faute de stocks suffisants de céréales. Pour ne rien arranger, le prix sur les marchés pourrait être historiquement haut. Sorgho, mil, maïs, riz local ou importé, le prix de toutes les céréales en Afrique de l'Ouest est en hausse et dépasse la moyenne de ces 5 dernières années. Centrafrique, un employé des Médecins sans frontières est décédé samedi dernier après avoir été touché à 3 reprises par les tirs de membres des FACA, les forces armées centrafricaines, dans la préfecture de Louham, au nord-ouest du pays.
L'invité.
La paix est possible, mais il y a beaucoup de tireurs de ficelles qui s'impliquent dans le conflit. Et cela complique davantage les efforts de pacification sur terrain. C'est ce que pense Lucie William, la directrice des programmes de l'ONG britannique Alerte Internationale. Elle explique toutes les actions que mène cette organisation pour promouvoir la paix et la cohésion sociale entre les communautés dans la partie est de la RDC. Elle s'entretient ici avec Cynthia Bachizi Nabizana.
Lucie Williams, bonjour.
Bonjour.
Alerte internationale est en RDC depuis 2002. Vous êtes plus dans tout ce qui est effort pour la consolidation de la paix. Vous faites quoi exactement sur terrain?
Merci beaucoup. En fait, ce que nous faisons, c'est on espère d'aider les communautés de trouver les solutions à leurs propres conflits et leurs propres problèmes. Donc, qu'est-ce qu'on fait concrètement? On travaille sur le dialogue communautaire et là, on aide les communautés de faciliter leur propre dialogue, leur propre médiation. On les aide aussi à analyser les problèmes, à analyser les vraies causes profondes du conflit. On aide les femmes en particulier, des femmes de différentes couches sociales, de s'impliquer dans les processus de paix, de développement, de gouvernance. Nous avons des projets dans le secteur minier, par exemple, pour travailler sur la sécurité dans les zones minières et voir comment les communautés peuvent mieux profiter de ces mines pour leur propre développement et leur propre sécurité.
Aujourd'hui, quelle lecture faites-vous des différents conflits qu'il y a entre les communautés, surtout dans la partie est du pays?
Une chose qu'on constate, on sait qu'il y a beaucoup de confiance entre certaines communautés. Il y a la confiance qui est là. Il y a des mécanismes de gestion et de transformation de conflits qui sont là. La paix est possible. C'est ça qu'on constate. Cependant, il y a beaucoup de tireurs de ficelles qui s'impliquent dans les conflits. Il y a beaucoup des autres problèmes liés aux réponses militaires, en fait. Une réponse militaire peut être nécessaire de temps en temps, mais il faut vraiment mettre devant le dialogue, mettre devant des options paisables pour la gestion des conflits. Et ça, c'est une chose qu'on voit. On a perdu un peu à l'Est aujourd'hui. Il y a beaucoup d'insécurité, surtout pour des communautés eux-mêmes. Ils ne se trouvent pas, ils sont en déplacement. Ça devient plus difficile de gérer leurs propres conflits quand ils sont en déplacement. Donc vraiment, on a besoin de travailler ensemble pour des options non militaires aussi, pour essayer de résoudre les vraies causes de problèmes de ces conflits et vraiment mettre devant les communautés qui sont les plus impactées par ces conflits. Eux-mêmes, ils ont des solutions à donner et c'est à nous aussi à faciliter ce processus.
Vous êtes en RDC depuis 2002. Vous œuvrez dans tout ce qui est cohésion sociale, consolidation de la paix. Aujourd'hui, quels sont vos résultats?
En particulier, on a travaillé avec les femmes peace ambassadeurs, donc les ambassadrices de paix, à tous les niveaux, au niveau des communautés, au niveau territorial, au niveau provincial et au niveau national. Et donc, on a beaucoup appuyé ces femmes d'avoir une voix plus importante dans leur ménage, dans leur communauté, et passer des messages importants sur la paix, sur le développement, sur la cohésion sociale. Donc ça, c'est une chose qu'on a fait avec le financement surtout de Suédoise et de l'ambassade de la Suisse. Et on voit aujourd'hui qu'il y a les femmes commerçantes qui vraiment renforcent la cohésion sociale entre les communautés à la frontière, mais aussi avec les autres communautés juste à côté.
Vous avez beaucoup de défis. Mm-hmm. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les grands défis auxquels vous faites face?
L'État est là, mais il faut vraiment travailler pour renforcer les institutions publiques de l'État et vraiment restaurer l'autorité de l'État. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important à l'est du Congo. C'est une chose qu'on remarque avec l'État de siège, étant donné que ces institutions publiques sont maintenant gérées par des militaires et par l'armée. Ça risque de vraiment encore faiblir encore ces institutions publiques qui sont déjà très fragiles. Donc ça, c'est un grand défi sur lequel nous tous nous devons travailler. Des autres défis, bien sûr, c'est aussi pour mettre la RDC sur la carte globale et la carte internationale. Et là, vraiment, on regarde la communauté internationale, les ambassadeurs et le gouvernement lui-même, de vraiment s'assurer que la RDC est sur la liste des priorités, des pays prioritaires qui ont besoin d'une appui technique et financière, bien sûr. Il ne faut pas oublier la potentialité qu'il y a ici. Donc je pense que c'est les deux grands défis que nous avons dans notre travail.
Bonne chance pour la suite.
Merci beaucoup.
Je vous remercie.
C'est ici que nous mettons un point final à cette grande édition du journal parlé de la mi-journée, coordonnée par Élisée Chikota Chivueta, supervisée par Martin Sebujangui et mise en onde par Alain Goy. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur la radio de la paix.